Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin et nos experts pour présenter cette émission. Je suis en compagnie de Julien Bouissou. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice.
Chef de service argent et placement au magazine Capital. Et on s'intéresse ce mois-ci, Julien, à un placement qui n'en finit plus de convaincre les Français, les épargnants. Ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier.
Exactement, mais on va plutôt s'intéresser aux nouveautés en matière de SCPI, ces nouvelles SCPI alors, qui permettent en fait de diversifier la mise, soit par exemple en achetant des entrepôts logistiques, ou même en franchissant les frontières, c'est-à-dire acheter des immeubles commerce, bureaux, en Allemagne, Royaume-Uni, etc. Donc on va voir quel rendement attendre peut-être de ces nouvelles SCPI, les risques aussi. Avec nous pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Péter, qui est directeur général de Sofidi. Bonjour Monsieur Péter.
Bonjour.
Et aussi, nous accueillons Benjamin Lebeau, directeur général d'Alderan. Bonjour, monsieur Lebeau.
Alderan. Bonjour, Alderan. Bonjour, voilà. Fabrice.
Donc, Alderan et Sofidi, deux belles maisons, justement, pour parler de ce placement phare, on peut dire, puisque ça collecte énormément. Et vous avez raison, Julien, on dit nouvelle LCPI parce que c'est un produit ancien, mais c'est vrai qu'il n'en finit plus de se réinventer. On va voir ça dans quelques instants. Tout à l'heure, on retrouvera les experts, la rubrique Ça vous concerne, votre rubrique préférée, bien sûr, vos questions, les réponses des experts. Et ce sera en compagnie de Thibault Lamy, le grand rendez-vous de l'épargne spécial Nouvelle SCPI. C'est parti.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Voilà, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Péter et Benjamin Lebeau, nos invités aujourd'hui. Jean-Marc, on commence avec vous. Je disais un placement ancien, très ancien même, mais qui a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années avec des collectes, des montants assez extraordinaires.
Oui, alors la SCPI existe effectivement depuis la fin des années 60 et pour moi j'ai tendance à dire que c'est le fonds de pension à la française, puisque en France il y a un sujet des retraites, il y a une retraite par répartition et la retraite par capitalisation finalement a été déléguée notamment aux gestionnaires de SCPI qui permettent aux Français donc d'investir, d'épargner pour avoir des compléments de revenus à la retraite. Et voilà, on a mis 50 ans pour commencer à être un peu visible et c'est vrai que les performances jusqu'à présent plutôt étaient assez favorables.
Ouais, retraite par capitalisation, ça fait un peu peur pour l'instant puisque normalement c'est basé sur des fonds actions. Là, on est sur le placement préféré des Français, c'est-à-dire la pierre. On rappelle d'un mot le principe de la société de placement, civile de placement immobilier. C'est vous, avec l'argent collecté, qui achetez des immeubles voilà. Et on reçoit des dividendes. Des loyers.
La raison d'être des SCPI, finalement, c'est deux choses. C'est un, c'est pas vous qui gérez l'immobilier. Et deux, on va quand même chercher une certaine forme de diversification. C'est-à-dire qu'on va pas dépendre d'un seul locataire. L'idée, c'est d'acheter plusieurs actifs immobiliers pour mutualiser les risques et donc diversifier tous ces investissements. Et les gestionnaires de SCPI font ça pour vous.
Alors justement, sur cette notion d'investissement, jusqu'ici, un peu la star du placement SCPI, c'était le bureau parisien. Beaucoup d'anciennes SCPI sont encore essentiellement constituées de ce type d'actifs. Vous lancez une nouvelle SCPI qui va plutôt en Europe. Alors pour quelles raisons, quelles opportunités on peut avoir en lançant ce genre de SCPI?
Alors on peut très bien diversifier des SCPI de bureau, en n'allant pas uniquement à Paris, mais en allant dans les grandes métropoles régionales, type Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, etc. On diversifie aussi par le nombre de locataires. On a une SCPI, par exemple, qui a près de 1000 locataires de bureaux qui s'appelle Efimo. Mais un axe de diversification supplémentaire, et c'est très vertueux de chercher encore plus de diversification, c'est la diversification qui est géographique au-delà de la France. Donc, premier avantage, une diversification encore supplémentaire. Deuxième avantage, qui est un peu anecdotique, mais je pense que les Français y sont sensibles, c'est que lorsque vous investissez pour le compte des épargnants à l'étranger, vous avez une fiscalité qui est moins importante puisque vous l'acquittez sur le pays dans lequel vous investissez. Et on sait bien, malheureusement, que la France est le pays où la fiscalité sur l'immobilier est la plus élevée.
Ah bon.
En Allemagne, par exemple, vous avez un impôt libératoire qu'on ne paye qu'une fois, qui est à hauteur de 16%, contre sans doute beaucoup plus en France.
Donc il y a un petit supplément de rendement net, on va dire, à attendre de ces pays.
Ah, très clairement, oui, parce que vous payez en moyenne 10 points d'impôt en moins dans les pays étrangers, donc quelque part, vous retrouvez ça en termes de performance dans votre SCPI européenne.
D'accord. Alors, Monsieur Lebeau, autre piste de diversification. Alors là, on reste en France avec vous. Donc, c'est la SCPI Activimo, mais qui vise essentiellement des entrepôts logistiques, enfin, les activités de logistique.
Tout à fait. C'est même la caractéristique principale d'Activimo et c'est sa raison d'être. C'était à sa naissance en 2019, la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité à la logistique. L'idée, de la même façon que ce que disait mon co-invité du jour, l'idée, c'est qu'il faut confier effectivement ces SCPI à des acteurs qui savent faire. C'est tout l'intérêt de la SCPI. Investir dans l'immobilier, oui, mais avec des acteurs qui connaissent la classe d'actifs ou l'environnement d'investissement. Et en fait, Alderan, c'était une société de gestion qui est opérée sur cette classe d'actifs, à mon sens, extrêmement intéressante en termes de diversification de patrimoine pour des investisseurs plutôt professionnels initialement. Et la genèse de la SCPI Activimo, ça a été de rendre accessible cette classe d'actifs au grand public, donc à travers la naissance de cette SCPI qui a vu le jour juste avant le confinement, juste avant la crise qu'on a connue, qui a été quelque part presque un booster pour nous
et
un booster pour cette classe d'actifs.
Logistique, oui.
Effectivement, c'était une classe d'actifs sur laquelle il y avait besoin de faire beaucoup de pédagogie initialement pour expliquer l'intérêt d'investir sur cette classe d'actifs. Et le confinement, le fait que tout le monde pendant le confinement s'est rendu compte de l'utilité des entrepôts logistiques et de la chaîne logistique au sens large, a mis en lumière cette classe d'actifs et nous a permis d'augmenter la collecte.
Tout le monde s'est mis à faire évidemment un peu plus de commerce en ligne. Alors justement, est-ce que ça a été cette crise, gens qui pleurent et gens qui rient, c'est-à-dire on a vu quand même les commerces traditionnels se vider, on n'avait plus le droit d'y accéder.
Pas tous.
Les bureaux, on va y revenir, les bureaux, effectivement là non plus on n'allait pas au bureau, et certains post-Covid ont quand même modifié leur façon de travailler avec plus de télétravail, ils rendent des baux. Donc à juste titre, on comprend bien que pour le commerce, tout ce qui est logistique finalement, ça a dû bien se passer. Est-ce qu'on a pu s'inquiéter, Jean-Marc Peter, sur justement les rendements qu'on a pu avoir sur cette année 2020? Au final, comment vous avez traversé cette crise?
Alors, sur les bureaux et les commerces, on a de façon contre-intuitive bien traversé cette crise pour plusieurs raisons. Déjà, les commerces, tous n'étaient pas fermés. Et le commerce que nous, on aime bien, c'est le commerce de proximité. Et c'est précisément celui qui a bien fonctionné et qui a même été un outil indispensable pendant les confinements, puisque beaucoup de commerces de proximité sont restés ouverts et c'était le lien social, c'était aussi la façon de s'alimenter et de se soigner. Autre chose aussi qui a bien fonctionné s'agissant des commerces, peut-être plus en France qu'ailleurs, c'est l'aide importante qui a été débloquée par les autorités qui a permis aux commerçants de traverser ces périodes pour ceux qui étaient fermés de façon tout à fait satisfaisante. De telle sorte d'ailleurs que on a juste un chiffre intéressant que je vous livre, c'est que on a réussi à récupérer à ce stade 97,5% des loyers qu'on a facturés en 2020, ce qui est quasiment un rythme normal. Et on a finalement aidé nos locataires, ceux qui étaient mal aidés par le gouvernement, qu'à hauteur de 1,2%. Donc c'est très 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 faible et ça illustre la résistance. S'agissant des bureaux,
quand vous dites aider, ça veut dire différer le loyer ou on passe sur un trimestre de loyer?
Alors, on a différé certains loyers, mais on les a encaissés depuis lors. En revanche, non, c'était des abandons, mais dans une logique un peu win-win où, par exemple, on propose au locataire de s'engager à ne pas faire jouer son départ à la fin d'une triennale et en contrepartie, on lui octroie un mois de loyer gratuit.
D'accord. On rallonge les baux.
On rallonge les baux et on fait un geste pour aider le partenaire commerçant. S'agissant des bureaux, donc le télétravail, on est encore un peu à chaud, mais les choses sont en train d'être plus compréhensibles et visibles, et chacun commence à se faire une opinion, je dirais, beaucoup plus raisonnable là-dessus. Donc ça existait avant, ça va évidemment continuer. On s'accorde aujourd'hui à dire qu'il va y avoir entre 1 et 2 jours de télétravail par semaine, et ça va avoir un impact finalement assez limité sur les bureaux, parce que c'est pas parce que vous réduisez la présence de 10 ou 20% que vous allez réduire d'autant les surfaces, et d'autant que la crise sanitaire nous incite aujourd'hui sur les bureaux à peut-être les modifier dans un sens où il va y avoir moins d'open space et plus d'espace de restauration, d'échange, de détente. Donc, l'un dans l'autre, je pense que l'impact va être relativement faible sur les bureaux, notamment les bureaux bien placés dans les métropoles régionales françaises et européennes, d'autant qu'on est dans une logique quand même de croissance économique assez forte, ce qui veut dire qu'il y avait des entreprises qui vont se développer, des entreprises qui vont se créer et qui vont être donc naturellement consommatrices de nouveaux bureaux.
Alors, sur les rendements, justement, alors, la moyenne de la SCPI, on est à 4,20%, je crois, on a été dans ces eaux-là pour 2020. Vous, vos nouvelles SCPI, qu'est-ce qu'elles promettent? Par exemple, Sophie dit Europe Invest, vous avez un objectif de rendement, on sera au-dessus de cette moyenne?
On a un objectif de rendement. Alors, traditionnellement, on fait mieux, un peu mieux que la moyenne. Par exemple, l'année dernière, c'était 4,2. Nous, on a fait plutôt entre 4,6 et 4,8. Notre objectif pour toutes nos SCPI, et notamment cette nouvelle SCPI, Sophie dit Europe Invest, c'est de se positionner dans les mêmes niveaux de rendement pour 2021.
D'accord.
Donc pas de baisse pour les SCPI historiques et une rentabilité, l'objectif, alors c'est pas garanti parce qu'il y a toujours un risque immobilier en matière de SCPI, mais pour cette SCPI européenne, l'objectif c'est d'avoir le même type de rendement que les SCPI historiques.
D'accord. Alors du côté de la logistique, on est un peu au-dessus, hein, parce que vous, votre objectif de rendement, c'est plutôt du 6%.
C'était clairement 6%, c'était aussi un argument fort d'investissement sur cette classe d'actifs qui est historiquement généré des revenus avec des niveaux de spread par un peu plus intéressant que sur d'autres classes d'actifs. L'objectif était de 6%, il a été tenu en 2020 avec un TDVM de 6,05.
Alors c'est le taux de distribution TDVM,
celui qui intéresse les porteurs de parts. Il sera tenu en 2021 et en revanche, effectivement, on est dans un environnement de marché où la concurrence sur ces classes d'actifs se renforce. Donc,
Les prix grimpent.
Les prix grimpent et il faudra en tenir compte. Mais on reste sur un produit qui a vocation à délivrer plutôt des rendements haute fourchette pour justement tenir compte de la spécificité de cette classe d'actifs.
Donc il y aura peut-être un petit aspect aussi revalorisation du patrimoine. Alors ça c'est vu en fin d'année.
Ça c'est l'autre côté de la médaille. Effectivement, indépendamment du rendement, le fait que ce sont des actifs immobiliers qui se valorisent d'une certaine façon, probablement une revalorisation de la part qui fait partie de la performance globale d'un investissement.
Voilà la cerise sur le gâteau. Alors justement, ces rendements exceptionnels, ça attire de nombreux épargnants, de nombreux investisseurs. On va parler financement tout de suite dans notre séquence reportage. Julien, vous êtes allé interroger Paul Bourdois, trois questions pour lui. C'est le cofondateur du courtier France SCPI et il nous parle justement du financement à crédit de ces sociétés civiles de placement immobilier. On l'écoute tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Quelles sont les banques aujourd'hui qui acceptent de faire un financement à crédit de SCPI?
Je pense qu'avant de parler des banques qui acceptent de faire des crédits, il faut rappeler le contexte. Il y a quelques années, il y avait un acteur principal, majoritairement, qui finançait des parts de SCPI en architecture ouverte, c'est-à-dire quasiment toutes les SCPI. C'était le Crédit Foncier et il a décidé de cesser ses activités, effectivement. Donc aujourd'hui, quand on parle de banques qui peuvent financer, il y a plusieurs types de banques. Il y a les banques en ligne, que ça n'intéresse pas, puisque évidemment c'est un marché encore trop niche pour elles et elles ne voient pas ce qu'elles peuvent apporter. Il y a un deuxième type de banque, c'est les banques de réseau, les banques classiques qu'on peut trouver au coin de sa rue. Et là, si elles connaissent les SCPI, eh bien on peut demander à se faire financer ses parts de SCPI. Mais le problème, c'est qu'elles sont en architecture cette fois-ci fermée, c'est-à-dire qu'elles disent OK, mais pour des SCPI maison. Et puis il y a des nouveaux acteurs qu'on voit depuis un certain temps, qui sont des acteurs en général des caisses régionales, qui ont un peu plus d'indépendance dans leur politique commerciale, et puis des acteurs qui donnent ce qu'on appelle accès à un crédit à la consommation, mais pas un crédit conso classique qu'on pourrait avoir pour acheter une voiture ou je ne sais quoi, un crédit conso affecté, donc qui est affecté, comme son nom l'indique, au SCPI.
Est-il possible de financer n'importe quel type de SCPI avec ces établissements?
Alors, la plupart du temps, oui. Ces nouveaux acteurs, ils travaillent en architecture ouverte. Il y a quelques SCPI qui ne sont pas élus parce qu'elles présentent des risques par rapport à leur répartition géographique. Certaines banques estiment qu'elles sont un peu trop exposées à l'étranger, par exemple, et puis aussi par rapport à leur exposition de typologique, donc elles sont trop investies sur tel et tel type de bâtiment.
On parle de crédit conso, on se dit que je vais payer un taux très très élevé. Qu'en est-il?
C'est vrai que frontalement, quand on regarde les choses, forcément, un taux crédit conso est plus élevé qu'un taux immobilier classique, effectivement. Mais quand on met bout à bout les choses, ce que je viens de dire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que quand on regarde un crédit conso, il n'y a pas de frais de courtage, vous n'avez pas de frais de banque, vous n'avez pas de frais de gestion, vous n'avez pas d'assurance obligatoire. La réponse est extrêmement rapide. Et donc, sur 15 ans, par exemple, si on compare sans donner de taux forcément, eh bien, c'est plus rentable en termes d'opération au global avec la rentabilité des SCPI de prendre un crédit conso par rapport à un crédit immobilier classique. La seule chose vient qu'on a un billet perceptuel sur le crédit conso. On s'imagine que c'est un taux à 7% sur 24 mois, comme pour acheter une voiture, comme je le disais, ou acheter du matériel IFI, je ne sais quoi. Là, pour le coup, c'est un crédit conso affecté, c'est la différence, donc c'est bien affecté au SCPI, ça s'assimile à un crédit immobilier classique. Sur 15 ans, si on prend un point de comparaison, sur 15 ans, un crédit immobilier pour les SCPI, un crédit classique, ça va être, on va être aux alentours de 1,2-1,3%. Donc ce qui est relativement faible, ce qui s'approche des taux immobiliers classiques. Et sur 15 ans, un crédit conso, ça va être plutôt aux alentours de 2,2-2,3%, donc un point quasiment au-dessus.
Est-ce qu'il est possible de mettre en concurrence ces établissements ?
Il est possible, et je dirais même plus, il est nécessaire de les mettre en concurrence. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec les partenaires avec lesquels on travaille. On les met en concurrence via des courtiers, bien évidemment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre est relativement aujourd'hui globalisée, relativement uniformisée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir une banque en Bretagne, par exemple, et solliciter une autre banque du même groupe à Paris. Vous aurez la même réponse. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est toujours bon, et je le rappelle, d'aller voir sa banque, sa propre banque de détail, en lui disant, bah voilà, moi j'ai eu tel taux avec telle banque, est-ce que vous pouvez faire mieux ? Parfois, on a des bonnes surprises. Dernièrement, on a eu un client qui a eu un meilleur taux avec sa propre banque, en architecture ouverte, plutôt que de passer par un courtier. Donc c'est toujours bon de mettre en concurrence, oui.
Voilà, donc c'était Paul Bourdois de France SCPI hein, sur ce point de financement. Alors Monsieur Peter, je crois justement, ça tombe bien, vous avez développé un outil de financement, puisque c'est un peu l'enjeu en ce moment, hein, c'est de trouver la banque qui va permettre d'aller vers des SCPI en architecture ouverte pour diversifier. Comment ça se passe chez vous ? Quel service vous avez développé ?
Alors effectivement, on a développé un outil, mais on a même développé une filiale qui s'appelle Sofidi Financement, qui est allée rechercher donc des accords avec ces établissements qui aujourd'hui acceptent de prêter pour les SCPI et qui étaient évoqués donc par votre témoin. Donc c'est des banques régionales, mais c'est aussi des instituts de crédit qui font des crédits à la consommation
alors,
affectés.
Il y a peut-être quelques noms, c'est Crédit Agricole, Consumer Finance.
Crédit Agricole, on a des accords avec Bread, ouais. On a aussi Federal Finance, etc.
Donc c'est Arkea, ça,
Arkea. Ouais. L'idée, c'est d'avoir d'ores et déjà des accords avec ces établissements financiers sur des profils types qui d'ailleurs sont assez larges. On n'est pas obligé d'être une personne physique, on peut être une personne morale, on peut être un travailleur non salarié, un TNS. Et donc, il y a eu tout un travail de préparation pour agréger ces offres et les proposer donc aux conseillers aux gestions de patrimoine qui souvent conseillent les épargnants pour souscrire des SCPI. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait franchement dommage de ne pas souscrire les SCPI en s'endettant, compte tenu du niveau des taux et compte tenu de ce que rapportent les SCPI. Donc il y a un différentiel qui est supérieur à 3% en faveur de l'emprunteur. Ouais. Voilà, l'argent coûte 2% et la SCPI rapporte 5%. Donc ça serait dommage de ne pas le faire.
Monsieur Lebeau, de votre côté, donc vous passez plutôt par des CGP aussi hein, pour distribuer ces enjeux de financement à crédit. C'est quelque chose que vous essayez de débloquer aussi au niveau de la société.
Je salue la démarche extrêmement intéressante, je pense, effectivement, d'accompagnement des porteurs de parts sur cette mise en place de financement. Après, modestement, nous restons à notre échelle d'aller chercher la performance sur le véhicule. Et ensuite, c'est à chaque porteur de part, avec l'aide de son CGP, effectivement, de structurer le financement qui est intéressant pour lui.
D'accord. En tout cas, on a vu que, c'est vrai, comme vous le disiez, les crédits à la consommation, c'est plus du 5-7%, c'est pas du taux d'usure, on est autour de moins de 2%, effectivement, et le différentiel est assez conséquent.
L'intérêt du crédit à la consommation affecté à l'achat d'immobilier, c'est qu'on peut tout aussi bien déduire les intérêts de l'emprunt des revenus fonciers. Et donc, il y a un effet de levier très intéressant que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'argent coûte 2, la SCPI rapporte 5, mais vos intérêts d'emprunt viennent en déduction de ce que vous déclarez chaque année en revenus fonciers.
Donc, alors, puisqu'on est dans les revenus, justement, comment c'est imposé pour ceux qui nous écoutent, les épargnants qui disent, tiens, ça peut être une bonne idée. Ensuite, quelle est la fiscalité qui va s'appliquer sur les SCPI?
Alors, il y a deux cas de figure, il y a les SCPI françaises et les SCPI européennes. Donc,
alors justement, on va voir sur les nouvelles SCPI, France, on a une petite idée, justement, sur quand on investit sur une SCPI, voilà, dont les allemandes, par exemple, ou entière Europe de l'Est.
Alors, c'est vrai que ça mérite d'être expliqué, c'est pas vous qui payez l'impôt, c'est la SCPI dans laquelle vous êtes investi qui paye pour vous l'impôt sur les loyers perçus en Allemagne, par exemple. Donc, la SCPI détient un actif de bureau à Berlin. Et la SCPI paye pour vous un impôt qui est beaucoup plus faible que celui en France, qui est de l'ordre de 16%. Et il y a tout un dispositif fiscal un peu compliqué, je pense qu'on ne va pas entrer dans le détail, qui permet finalement aux porteurs de parts de ne pas payer d'impôt en France, puisque l'impôt a été réputé payé en Allemagne. Pour éviter la double imposition, puisqu'il y a des accords donc, bilatéraux entre tous les pays européens pour que justement on ne paye pas deux fois l'impôt sur le même revenu.
Alors on va peut-être aborder la question des risques, hein, quand même, puisqu'on a affaire à des nouveaux produits. Donc quels sont les risques respectifs de vos nouvelles SCPI chez Alderan, Activimo, donc on est quand même sur une seule classe d'actifs. Comment vous aménagez un peu le risque sur cette SCPI?
Alors ce sont des risques qui restent des risques immobiliers, donc nous avons l'habitude de mutualiser, même si ce sont des risques qui sont sur une classe d'actifs très spécifique. On les adresse et on les traite, on essaye de les maîtriser par des éléments classiques de mutualisation du risque géographique. La logistique d'ailleurs est assez bien taillée pour ça, si je puis dire, puisque en réalité on investit dans de multiples localisations, donc cette mutualisation du risque géographique graphique est extrêmement importante. Mutualisation du risque locatif, effectivement, en essayant d'avoir différents locataires pour que tous les loyers qui sont la source du rendement ne soient pas mis en péril. Et ensuite, il y a toute une prise en compte de l'environnement macroéconomique et des tendances de fonds. Certes, un entrepôt logistique n'est pas un immeuble de bureau parisien avec la réversibilité que peut donner par exemple un immeuble parisien en termes de reconversion d'habitation, mais c'est justement aussi le positionnement initial d'Activimo. Je disais tout à l'heure, on se positionne sur des locaux d'activité et de logistique. La logistique, comme le secteur des bureaux, comme le secteur du commerce, connaît sa révolution avec notamment tout ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Et le positionnement d'Activimo, c'était ça, c'était d'accompagner ce mouvement en tant qu'acteur immobilier, en tant que bailleur, pour trouver des lieux, des hébergements à ces nouveaux acteurs de la logistique du dernier kilomètre. Donc voilà, c'est toute une appréhension, mais d'un risque qui reste un risque immobilier que nous avons l'habitude, je pense, chez Sofidy comme chez Alderan, de gérer.
D'accord. Et chez Sofidy, alors, pour cette SCPI européenne, on est déjà diversifié entre plusieurs pays, donc ça permet justement d'aménager le risque.
Voilà, le risque des SCPI, c'est le risque immobilier, comme le disait mon camarade tout à l'heure. Et donc, on atténue ce risque en tant, nous, que gestionnaire de fonds immobiliers, en diversifiant les investissements. Donc ça, c'est un point, effectivement, qui est très clair. Il y a aussi le risque, effectivement, de votre actif, quelle est sa valeur résiduelle dans 30 ans. Et là, nous, on adresse ce risque, y compris dans notre SCPI européenne, en ayant pour premier critère d'investissement, l'emplacement. Parce que vous savez qu'il y a trois règles en immobilier. 1, l'emplacement. 2, l'emplacement. Et 3, l'emplacement. Et donc, comme on est toujours convaincu, malgré ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines et mois, que les phénomènes de métropolisation vont continuer, il va y avoir de plus en plus d'urbains et de moins en moins de ruraux, hein, plus 10% dans les métropoles en 2040. Et quand vous choisissez un emplacement au cœur des métropoles, vous vous rendez compte que finalement, peut-être qu'en 10 ans, 20 ans, l'utilité de l'actif va changer, mais pour le mieux. Donc effectivement, on voit se développer la logistique du dernier kilomètre, y compris dans les pieds d'immeubles parisiens, avec toute une panoplie de dark stores, de dark kitchen, de quick commerce, etc. Et avoir cette stratégie de l'emplacement comme étant le premier critère est une façon de lutter contre le risque d'obsolescence de l'actif immobilier que vous achetez, parce qu'on essaie quand même d'acheter pour des très longues périodes, sinon l'éternité, comme je m'use à le dire. Dernier risque est celui de l'inflation, et là, pour le coup, l'immobilier, c'est, je pense, la meilleure parade. C'est même meilleur que l'or, si je puis dire, enfin, si je puis me permettre.
Ça accompagne l'inflation.
Parce que, voilà, ça accompagne l'inflation. Les loyers sont indexés d'une certaine mesure et dans une grande mesure de l'inflation. Et contrairement à l'or, ça rapporte des loyers, parce que l'or ne paye pas de loyer, malheureusement. Sinon, ça se saurait.
On récapitule donc Sofidy Europe Invest, nouveau véhicule accessible à partir de 2350 €, 10 parts à 235 €, accessible également en assurance vie, on le signale hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dispositifs extrêmement compliqués, ou se rapprocher bien sûr de son conseiller en gestion de patrimoine, pour Activemo chez Alderan.
6100 € de ticket minimum correspondant à 10 parts effectivement.
Voilà. Est-ce que vous êtes référencé sur des contrats d'assurance vie ou pas encore?
Non, pas.
Pas encore, peut-être pas, mais là, voilà, votre conseiller en gestion de patrimoine vous trouvera évidemment la solution. Ben voilà pour ce point sur ces SCPI, ces nouvelles SCPI. On le voit hein, toujours des rendements extraordinaires par rapport évidemment au taux sans risque, mais aujourd'hui, il faut prendre un peu de risque. On remercie évidemment nos deux invités du jour, nos deux experts, Benjamin Lebeau, directeur général d'Alderan, Jean-Marc Péter, merci. Vous êtes directeur général de Sofidy. Voilà pour ce dossier nouvelles SCPI. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça continue. Tout de suite, la rubrique « Ça vous concerne ».
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Ça vous concerne, votre rubrique préférée. Vos questions à vous, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs de Capital, et les réponses. Alors, les questions, elles sont triées par l'excellent Thibaut Lamy. Bonjour Thibaut.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Ça va bien.
Voilà, vous êtes rédacteur de la rubrique Argent Placement chez Capital. Et, eh bien, en face de nous, nous accueillons notre première experte, Nathalie Cousigoussuas. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notaire à Paris. Et Thibaut, vous avez une question de Karine.
Oui, alors Karine, c'est une lectrice dont le mari est décédé il y a 8 ans maintenant. Elle voudrait faire valoir ses droits en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance vie de son mari, dont elle s'estime bénéficiaire. Elle se demande si c'est pas trop tard pour agir.
Alors, il y a deux choses distinctes dans la question de Karine qui peuvent être envisagées. Tout d'abord, savoir si Karine, elle est encore dans les temps, comme on dit, s'il n'y a pas eu de prescription pour faire valoir ses droits, tout simplement parce qu'elle conteste la qualité d'un autre bénéficiaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation a rendu un arrêt récent et a dit que le délai lorsque le bénéficiaire n'était pas le souscripteur, pour toute action relative à une assurance vie, se prescrivait par 10 ans. Donc concrètement, notre auditrice, Karine, elle est encore dans les temps pour contester, par exemple, la qualité d'un bénéficiaire qui aurait été mise. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où elle a appris qu'elle n'était pas le bénéficiaire de son contrat. Donc là, manifestement, on est encore dans le délai de 10 ans. Donc Karine est encore bénéficie d'une action pour contester l'identité du bénéficiaire indiqué par son défunt époux.
D'accord. Et donc la Cour de cassation, si elle l'a précisé, si j'imagine qu'au départ, il y avait une autre...
Eh bien, bien sûr, il y a eu un conflit, puisque c'est une personne qui décède et son conjoint s'aperçoit que le bénéfice du contrat avait été mis au profit des deux enfants de son mari et qu'elle avait été rayée en tant que bénéficiaire. Donc, elle intente une action 5 ans après avoir été informée et elle est tout d'abord déboutée par les juges du fond en appel en disant bah non, c'est une prescription quinquennale parce que toutes les actions qui ressortissent, enfin la plupart des actions en droit des assurances, c'est 5 ans, c'est la prescription quinquennale. Et la Cour de cassation est venue dire mais non, c'est l'article L114-4, c'est précis, alinéa 1er du code des assurances, qui permet, lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce qui était le cas, eh bien de pouvoir contester le contrat d'assurance pendant un délai de 10 ans, donc soit à partir du décès, soit à partir du moment où on a eu connaissance du bénéficiaire. Donc là, Karine est encore dans les temps. Mais il y a aussi une autre question qu'on aurait pu se poser. C'est imaginer que des personnes averties du décès d'un proche pensent qu'elles sont bénéficiaires d'un contrat. Comment voir si le défunt a souscrit des assurances vie? Ce qu'on peut conseiller, nous, en tant que notaire, on dit regardez les relevés de compte pour voir si le défunt ne souscrivait pas ou n'abondait pas des contrats d'assurance vie. Et surtout, les héritiers ou les personnes qui s'estiment bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, munis d'un extrait d'acte de décès, ils peuvent interroger le fichier Agira. le fichier Agira qui recense les bénéficiaires de contrats d'assurance vie dénoués, donc par décès. S'ils ne sont pas bénéficiaires, on ne leur dira rien. Et s'ils sont bénéficiaires, on les avertira.
Ben c'est très clair.
Très bien. 10 ans après, en revanche,
Alors, pour revendiquer, mais attention, on perd le bénéfice du contrat auquel on peut avoir droit au bout de 30 ans. C'est deux choses distinctes. C'est par exemple une personne qui n'a pas été retrouvée pendant 10 ans. Mmh. Eh bien, dans ce cas-là, l'assureur conserve les capitaux pendant 10 ans. Et ensuite, à défaut d'avoir trouvé le bénéficiaire, les place à la Caisse des dépôts et consignations qui les garde encore pendant 20 ans. Mais au bout de 30 ans de délai, 10+20, ils sont transférés à l'État.
D'accord.
Donc il y a deux choses distinctes. La contestation, c'est 10 ans. Hein. En revanche, pour pouvoir bénéficier d'un contrat pour lequel il n'y a pas de contestation, c'est 30 ans pour faire valoir ses droits.
Et ces contrats en déshérence, c'est une somme assez astronomique.
Et c'est pour ça que le fichier Agira avait été créé, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de contrats d'assurance vie en déshérence.
Merci Maître Nathalie Cousy-Goussuas, notaire à Paris, et à très bientôt. Tout de suite, un prochain expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Nouvelle question, nouvelle experte, on accueille Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni, on va parler Bitcoin, Thibault.
Oui, alors Bitcoin, avec une question de Gilles qui suit de près l'actualité. Il a vu qu'il y avait un ETF qui allait être lancé aux États-Unis en bourse. Alors il voudrait savoir déjà dans un premier temps s'il pourra avoir accès à cet instrument financier et ce qui se cache derrière cet ETF.
Alors, pour répondre à Gilles, effectivement, la SEC, qui est un peu l'autorité régulatrice des marchés aux États-Unis, a autorisé la création de cet ETF investi, enfin, qui représente le Bitcoin. Mais cet ETF ne repose pas, enfin, peut-être revenir juste avant sur ce qu'est un ETF. Rapidement, un ETF, c'est un fonds qui va répliquer un indice. Financier. Et donc, normalement, si on dit ETF en crypto-monnaie, ça veut dire que c'est un ETF qui est investi dans la crypto-monnaie qu'elle considère. Mais ce n'est pas le cas. Il existe deux types d'ETF, en fait, aujourd'hui sur le marché, qui sont les ETF à réplication physique ou à réplication synthétique. Je vais donner peut-être un exemple. Vous avez un ETF sur le CAC 40, qui est un ETF à réplication physique, et ça veut dire que l'ETF, qui est un fonds, en fait, un fonds classique d'investissement, il va acheter directement toutes les actions qui composent le CAC 40 physiquement, donc le fonds va détenir physiquement les actions qui composent le CAC 40 pour pouvoir reproduire sa performance. Un ETF synthétique, c'est un ETF qui ne va pas investir directement dans les actions de l'indice qu'il veut restituer, enfin qu'il cherche à reproduire la performance, pardon, mais qui va investir dans une contrepartie. Et ces contreparties sont, en termes financiers, appelées des dérivés. On parle de swaps ou de futures, qui sont des contrats à terme. Et donc, on n'investit pas directement dans le sous-jacent. Dans le cadre des crypto-monnaies et donc du Bitcoin, pour répondre à Gilles, en fait, l'ETF ne va pas directement détenir du Bitcoin, mais va détenir des futures, c'est-à-dire des contrats à terme, sur, en fait, la valorisation du Bitcoin sur une durée donnée.
D'accord.
Okay. Quel est le risque, du coup, par rapport à acheter du Bitcoin physique, si tant est que ce soit physique, pour un cryptoactif?
Alors, on va peut-être commencer d'abord par l'avantage. Pourquoi est-ce qu'on fait des ETF sur les crypto-monnaies? L'avantage, c'est d'éviter toutes les complications qu'on peut avoir, en tout cas qui existaient peut-être auparavant, à détenir de la crypto-monnaie en direct. Mmh. C'est-à-dire sur quelle plateforme passer, les frais de détention, le fait de ne pas perdre. On a entendu pas mal de gens qui avaient perdu leur clé d'accès à leur crypto-monnaie. Donc, ça permet d'avoir un accès peut-être plus simplifié. Ça a été vendu comme un peu une démocratisation d'accès aux crypto-monnaies. Et en fait, le risque, c'est le risque de la contrepartie, c'est-à-dire que vous n'investissez pas directement en fait dans la crypto-monnaie, vous investissez dans des dérivés, dans un futures, et donc là il y a une contrepartie. Et donc c'est la fiabilité de la contrepartie qui va être mise en jeu par rapport à l'évaluation du sous-jacent.
D'accord, du coup c'est une espèce de billet à deux bandes, trois bandes.
Voilà, c'est un produit qui est plutôt complexe. Très clairement, donc Gilles peut avoir accès à cet ETF. On peut préciser à Gilles qu'il y a des ETF qui cotent sur les bourses européennes depuis juin, qui traitent aussi des crypto-monnaies. Donc il y en a sur le Bitcoin, il y en a sur d'autres crypto-monnaies. Ça a été émis par des sociétés de production d'ETF à la fois allemande, à la fois américaine. Pour une fois que l'Europe est en avance sur les États-Unis, je pense qu'on peut le préciser. Après, c'est un produit très complexe qui, à mon avis, est plutôt réservé aux investisseurs investisseur professionnel. Gilles, de par, à mon avis, son statut, est plutôt un investisseur non professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'accès aux crypto-monnaies est relativement simplifié par des plateformes et puis par une liste émise par l'AMF qu'on appelle la liste blanche. Et donc, il peut tout à fait avoir accès dans des conditions simplifiées et sécurisées, parce que c'est important, à ce type de classe d'actifs. Je pense que la création des ETF pour les crypto-monnaies est plus une manière d'institutionnaliser les crypto-monnaies aujourd'hui en bourse, de manière indirecte, faire entrer le Bitcoin indirectement sur les bourses internationales, notamment américaines, vu l'étendue qu'elles ont et le pouvoir qu'elles ont aujourd'hui, que de permettre à l'investisseur particulier d'avoir accès plus facilement aux crypto-monnaies. Parce que très clairement, acheter des crypto-monnaies en direct aujourd'hui, on peut le faire en suivant quelques recommandations. On le répète, la liste blanche émise sur le site de l'AMF et qui permet de détenir du Bitcoin et tout autre type de crypto-monnaie à partir du moment où elle est référencée.
Je reviens simplement rapidement sur la question de Gilles, donc, qui aimerait avoir accès à ce nouvel ETF. Comment il fait concrètement pour pouvoir le souscrire,
d'un point de vue opérationnel? Oui, ben en fait, il faut qu'il se rende sur les plateformes où l'ETF sera référencé. En fait, et il suffit de l'acheter. Par contre, il va pas pouvoir le mettre dans n'importe quelle enveloppe. Hein. A priori, il va être sur une enveloppe de type compte-titres qui permet l'éligibilité des titres américains, puisque ça va être un ETF américain. Donc, non éligible sur le PEA, non éligible sur l'assurance vie a priori.
Et voilà, ça pourrait être intéressant au niveau fiscal. Si effectivement on a un ETF européen, en tout cas émis, et ça va pas être évident à faire. Hein. Évidemment.
Pas très évident à être éligible encore sur l'assurance vie. Je pense que les assureurs sont encore un petit peu réticents au marché des ETF aujourd'hui. Mais effectivement, si on arrive à trouver des ETF crypto-monnaies qui sont cotés sur les bourses européennes, qui peuvent devenir éligibles plus largement à un PEA et une assurance vie.
Ouais, pourquoi pas. Les trackers, en tout cas, les émetteurs d'ETF qui se lancent, hein, évidemment, sur le Bitcoin, c'est une manne et sans doute un succès commercial. On suivra ça dans le temps. Merci, Charlotte Tamer. Je rappelle que vous êtes directrice conseil chez Yomoni. Tout de suite, prochaine question et nouvel expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Ça vous concerne, vos questions à nos experts. On accueille un nouvel expert, c'est Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur conseil chez Pixis Conseil et avec vous, on va parler plan indépendant. La question, Thibault, vient de Jérôme.
Ouais, alors Jérôme, il veut devenir donc entrepreneur. Il a entendu parler du plan indépendant qui a été présenté notamment par Emmanuel Macron. Alors, il veut savoir comment il peut en profiter en se lançant dans son affaire, tout simplement.
Alors déjà, bonne nouvelle pour Jérôme, c'est toujours une belle aventure que de se lancer dans une nouvelle entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron a annoncé effectivement mi-septembre ce plan des indépendants. Aujourd'hui, c'est plusieurs textes, la loi de finances, la loi de finances pour la sécurité sociale, une loi juridique. Donc il y a plusieurs textes qui devraient aboutir à la fin de l'année et qui vont viser donc à transformer un peu le paysage de l'entrepreneur indépendant. Aujourd'hui, juste pour remettre dans le contexte, il existe deux régimes. Le régime de l'entrepreneur individuel classique. Et puis, donc, qui a, je dirais, l'inconvénient de mélanger un peu les gens. On se retrouve avec un mélange entre le patrimoine privé de l'entrepreneur et puis son patrimoine professionnel. Donc, avec un risque, notamment, en termes de saisie de patrimoine. Et puis l'autre régime, qui est le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, donc qui est un régime qui a maintenant une petite dizaine d'années, qui n'a pas rencontré un grand succès chez les entrepreneurs, et qui est justement aujourd'hui, qui serait, en tout cas si la loi est adoptée, qui serait supprimé donc par ce nouveau régime. Faut savoir que ce régime-là aujourd'hui vise à ne créer plus qu'une seule structure juridique pour l'entrepreneur indépendant, avec un certain nombre de choses qui vont être modifiées. La première, déjà, c'est la protection du patrimoine de cet entrepreneur indépendant, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du régime existant, en tout cas depuis 2015, seule la résidence principale de l'entrepreneur est protégée, c'est-à-dire qu'elle est insaisissable. On considère que même si jamais il a des dettes à non plus pouvoir, sa résidence principale est protégée. Aujourd'hui, la loi vise à élargir cette protection et à mettre tout le patrimoine personnel de l'entrepreneur sous un statut d'insaisissabilité, donc ce qui permet de le protéger. Alors, moi j'ai mis quand même une réserve, en tout cas par rapport à l'état du texte aujourd'hui, puisque en fait, le patrimoine personnel resterait insaisissable, sous deux exceptions. La première, c'est les dettes fiscales et sociales, donc qui peuvent être quand même très importantes. Et la deuxième, c'est si l'entrepreneur renonce à cette protection à la demande du créancier. Donc ce qui fait quand même un petit moyen de pression, j'imagine, hein, une banque qui voudrait donner un prêt à un entrepreneur mais qui se dit la surface n'est peut-être pas suffisante, il faudrait que j'aille chercher ailleurs, renoncer à votre statut de protection. En termes de négociation, ça peut un peu compliquer les choses. Donc ce régime-là, qui normalement vise effectivement à protéger le patrimoine, je demande à voir en fait dans son application ce que ça pourrait donner. La deuxième facilité, c'est de faciliter le passage en société. C'est-à-dire que quand on se lance, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, on peut se lancer en entreprise individuelle. Là, on va avoir un système qui va faciliter aussi bien fiscalement, puisqu'on aura une neutralité fiscale du passage en entreprise individuelle à un système sociétaire. On aura une reprise de tous les engagements. Enfin voilà, l'idée est vraiment de faciliter le passage entre l'entreprise individuelle et la structure sociétaire. Le troisième point important, c'est un point qui vise à faciliter la reprise des entreprises. Aujourd'hui, lorsque j'achète un fonds de commerce, je vais mettre à mon bilan mon fonds de commerce et quelque part, ça ne me donne aucun intérêt fiscal. Demain, dans le futur régime qui est créé, dans le cadre d'une reprise, je vais acheter mon fonds de commerce, je vais l'acheter 100 000 euros et je vais pouvoir l'amortir sur 10 ans. On a une durée d'amortissement qui n'existait pas auparavant, un amortissement fiscal. Ce qui fait que, je reprends mon exemple, j'achète 100 000 euros, j'ai 10 ans d'amortissement, je vais pouvoir déduire fiscalement de mon résultat 10 000 euros chaque année. Ce qui est déjà quand même un gain fiscal en termes d'imposition de l'entrepreneur relativement important.
Alors, ce régime-là. Peut-être une chose à préciser, c'est que ce régime serait temporaire, je crois,
alors,
fiscalement.
En fait, beaucoup l'auraient voulu définitif, mais après, il a un coût fiscal quand même. Donc aujourd'hui, il est prévu de manière temporaire. Il était prévu d'ailleurs que jusqu'en 2023. Il a été étendu pour le moment dans le projet jusqu'en 2025. Mais effectivement, ce régime-là est temporaire pour le moment. Et puis, dernier volet, je dirais, de cette grosse réforme, c'est le volet qui couvre l'allocation chômage des travailleurs indépendants. Aujourd'hui, c'était quand même un système très, très restrictif, puisque je veux dire, pour pouvoir, en tant qu'entrepreneur, bénéficier d'une allocation chômage, il fallait que je sois en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire. Donc, une procédure qui, globalement, décidait de l'arrêt de mon activité. Avec ce nouveau plan des indépendants et la loi qui devrait être adoptée en fin d'année, on a élargi, en fait, ce régime d'allocation chômage à l'entrepreneur qui déciderait que son entreprise n'est plus viable, donc sans qu'on aille jusqu'à un dépôt de bilan quelque part, mais juste il décide que lui, son entreprise n'est plus viable et il va procéder à un arrêt de son activité. Alors, dans le critère de mon entreprise n'est plus viable, l'administration fiscale considère que si j'ai une perte de revenus professionnels de 30% sur une année, enfin entre mon année N et mon année N plus 1, je vais être dans un manque de viabilité et donc je pourrais bénéficier demain, en tout cas, de mes allocations chômage. Donc j'irais, pour Jérôme, c'est de lui dire qu'aujourd'hui, on a un panel qui s'élargit par rapport aux intérêts de la création de cette entreprise individuelle. Après, il faut quand même toujours se poser les bonnes questions et se poser les questions de savoir, dans mon statut, compte tenu de mon activité, de ce que je vais en faire, de mon chiffre d'affaires potentiel, de mon business plan, ce que je vais mettre dedans, il faut se poser la question de savoir entrepreneur individuel ou structure sociétaire. Et je veux dire, cet enjeu-là, il faut toujours se poser la question au moment de la création de son activité.
Merci Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. C'était très clair. Merci Thibault Lamy. Je rappelle que vous êtes rédacteur argent placement de Capital et vous avez d'ailleurs écrit un article sur le sujet à retrouver donc sur capital.fr. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci à Julien Bouissou qui l'a préparé, à la technique Pierre-Yves Falson et Nicolas Sandanassamy. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Retrouvez le grand rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.